Aureliano II était si occupé à vouloir consolider la renommée de ces tombes-là qu'il lui restait à peine le temps de voir ses enfants. Fernanda mit Amaranta Ursula dans un cours privé qui n'accueillait pas plus de 6 élèves, mais s'opposa à ce qu'Aureliano fréquentât l'école publique. Elle considérait qu'elle avait déjà fait une concession trop grande en acceptant qu'il quittât la chambre. En outre, seuls étaient accueillis dans les écoles à cette époque les enfants légitimes issus de mariages catholiques. Et sur l'acte de naissance fixé avec une épingle de nourrice sur sa brassière, quand on la porta à la maison, Aureliano était déclaré comme enfant trouvé. Aussi bien resta-t-il enfermé, livré à la surveillance charitable de Sainte-Sophie de la Piété et aux alternatives mentales d'Ursula, découvrant l'univers restreint de la maison d'après les explications que lui fournissaient les grands-mères. Il était plein de finesse et de gravité, d'une curiosité qui faisait sortir de l'orgon les adultes, mais, au contraire de celui du colonel à son âge, inquisiteur et parfois pénétrant, son regard était papillotant, un peu distrait. Tandis qu'Amaranta Ursula restait dans son jardin d'enfant, il chassait les vers de terre et torturait les insectes au jardin. Mais un beau jour, Fernanda le surprit en train de recueillir des scorpions dans une boîte pour les glisser sur la paillasse d'Ursula, et elle l'enferma dans l'ancienne chambre de Mémé, où il trompa ses heures de solitude en étudiant à nouveau les planches de l'encyclopédie. C'est là qu'Ursula tomba sur lui, un après-midi où elle déambulait dans la maison, l'aspergeant d'eau de rosée nocturne avec un bouquet d'ortie, et bien qu'elle se fût trouvée déjà de nombreuses fois avec lui, elle lui demanda qui il était. « Je suis Aureliano Buendia, » lui dit-il.
« C'est vrai, » répliqua-t-elle. « Il est temps que tu commences à apprendre l'orfèvrerie. »
Ursula se mit de nouveau à le confondre avec son fils, car le vent chaud d'après le déluge, qui avait imprimé à son cerveau d'éphémères accès de lucidité, avait fini de passer par là. Elle ne recouvra plus la raison. Lorsqu'elle pénétrait dans sa chambre, c'était pour y trouver Petronila Iguaran, avec l'encombrante crinoline et le boléro en perles tissées qu'elle portait pour se rendre à tous ses rendez-vous, et y trouver Tranquilina Maria Miniata alla Coque Buendia, son aïeul, s'éventant avec une plume de paon dans son fauteuil de paralytique, et son arrière-grand-père, Aureliano Arcadio Buendia, avec son faux dolman de la garde vice-royale, et Aureliano Iguaran, son père, qui avait inventé un orémus pour griller tout vif et faire tomber les varons des vaches, et sa timorée de mère, et le cousin à queue de cochon, et José Arcadio Buendia, et ses enfants morts, tous assis sur des chaises qu'on avait repoussées contre le mur comme s'il ne s'était pas agi d'une visite de famille, mais d'une veillée funèbre. De fil en aiguille, elle se faisait une conversation babillarde et colorée, commentant des faits en rapport avec des lieux très éloignés, à des époques qui ne coïncidaient pas, de telle manière qu'Amaranta Ursula, quand elle rentrait de l'école, et Aureliano, quand il était lassé par l'encyclopédie, la trouvait assise sur son lit, parlant toute seule, perdue dans un labyrinthe de mort.
« Au feu !»
s'écria-t-elle un jour, terrorisée, semant pour un instant la panique dans toute la maison, mais ce dont elle voulait prévenir, c'était de l'incendie d'une écurie auquel elle avait assisté à l'âge de 4 ans. Elle en arriva à si bien mêler le passé et l'actualité qu'à l'occasion des 2 ou 3 sursauts de lucidité qu'elle eut avant de mourir, nul n'aurait pu dire en pleine connaissance de cause si elle parlait de ce qu'elle ressentait alors ou de ce qu'elle se rappelait. Progressivement, on la vit se réduire, redevenir fœtus, se momifier de son vivant à tel point que, dans les derniers mois, on aurait dit un vieux pruneau nageant dans sa chemise de nuit, et son bras toujours levé avait fini par ressembler à une patte de papillon. Elle restait immobile plusieurs jours d'affilée, et Sainte-Sophie de la Piété devait la secouer pour se convaincre qu'elle était encore en vie. Et la prenait sur ses genoux pour l'alimenter avec de petites cuillerées d'eau sucrée. Elle avait l'air d'une vieille nouveau-née. Amaranta Ursula et Aureliano la traînaient et la transbahutaient à travers la chambre, la couchaient sur l'autel pour constater qu'elle était à peine plus grande que l'enfant Jésus, et un après-midi, la cachèrent dans une armoire du grenier où les rats auraient pu la dévorer. Un dimanche de rameau, ils pénétrèrent dans sa chambre alors que Fernanda se trouvait à la messe et transportèrent Ursula en la tenant par la nuque et par les chevilles.
« Pauvre petite arrière-arrière-grand-mère » fit Amaranta Ursula.
« Voilà qu'elle est morte de vieillesse !»
L'effroi fit bondir Ursula.
« Je suis vivante !»
s'écria-t-elle. « Tu vois, » reprit Amaranta Ursula en retenant son rire, « elle ne respire même plus !»«
« Mais je parle !»
hurla Ursula. « Elle ne parle même plus, dit Aureliano. Elle est morte comme un cri-cri. » Ursula se rendit alors à l'évidence.
« Mon Dieu !»
s'exclama-t-elle à voix basse.
« Ainsi, c'est cela la mort !»
Elle entama une oraison interminable d'une voix morne et précipitée qui se prolongea plus de 2 jours durant, et le mardi avait dégénéré en un salmigondi de prières vers Dieu et de conseils pratiques pour éviter que les fourmis rouges ne fissent s'écrouler la maison, pour qu'on ne laissât jamais s'éteindre la lampe devant le daguerréotype de Remedios, et pour qu'aucun Buendia n'allât se marier avec quelqu'un de même sang, car il en naîtrait des enfants à queue de cochon. Aureliano le second essaya de profiter de son délire pour lui faire avouer où était enterré l'or. Mais encore une fois, toutes ses adjurations furent vaines.
« Quand son propriétaire se présentera, »
dit Ursula,
« Dieu éclairera sa lanterne afin qu'il le découvre. »
Sainte Sophie de la Piété acquit la certitude qu'on allait la trouver morte d'un moment à l'autre, car elle avait observé ces jours-ci un certain trouble dans la nature. Les roses sentaient le parfum de la pâte d'oie. Elle fit tomber un bol de pois chiches et les graines s'immobilisèrent par terre en ordre géométrique parfait, décrivant la forme d'une étoile de mer. Et une nuit, elle vit passer à travers ciel une file de disques lumineux de couleur orangée. On la trouva morte à l'aube du jeudi saint. La dernière fois qu'on l'avait aidée à faire le compte de son âge, à l'époque de la compagnie bananière, elle avait calculé que c'était entre 115 et 122 ans. On l'enterra dans une petite caisse à peine plus grande que la corbeille dans laquelle avait été apporté Aureliano, et bien peu de monde assista à l'enterrement. En partie parce que ceux qui se souvenaient d'elle n'étaient plus nombreux, mais également parce qu'il fit si chaud en ce milieu de journée que les oiseaux désorientés frappaient les murs comme des volées de plomb et rompaient les grillages des fenêtres pour venir mourir dans les chambres. Au début, on crut que c'était une sorte de peste. Les ménagères s'épuisaient à tambalayer d'oiseaux morts, surtout à l'heure de la sieste, et les hommes allaient les jeter à la rivière par charretées entières. Le dimanche de la résurrection, le père Antonio Isabelle, qui était centenaire, affirma en chair que la mort des oiseaux avait été dictée par la mauvaise influence du juif errant qu'il avait lui-même aperçu la nuit passée. Il le décrivit comme un être hybride, issu du croisement d'un bouc et d'une femelle hérétique, bête infernale, dont l'haleine calcinait l'air et dont le passage serait cause que les jeunes mariés engendreraient des avortons. Rares furent ceux qui prêtèrent attention à ce sermon apocalyptique, car le village était persuadé que le curé radotait en raison de son âge. Mais le mercredi, à la première heure, une femme s'en vint réveiller tout le monde parce qu'elle avait découvert des empreintes de bipèdes à sabots fourchus. Elles étaient si évidentes et si reconnaissables que ceux qui y allèrent voir ne doutèrent pas de l'existence d'une créature épouvantable, analogue à celle que le curé avait décrite, et d'un commun accord installèrent des pièges dans leur patio. Ainsi réussirent-ils la capture. 2 semaines après la mort d'Ursula, Petra Cottès et Aureliano le second furent réveillés en sursaut par les pleurs en provenance du voisinage d'un veau énorme. Quand ils furent levés, un groupe d'hommes était déjà en train d'extraire le monstre, qui avait cessé de beugler, des pics acérés qu'ils avaient disposés au fond d'une fosse couverte de feuilles sèches. Il était aussi lourd qu'un bœuf, bien que sa taille ne dépassât pas celle d'un adolescent, et de ses blessures coulait un sang vert et onctueux. Il avait le corps couvert d'une toison rêche pleine de petites tiques et le cuir comme pétrifié par une carapace de rémora. Mais à la différence de la description qu'en avait faite le curé, ses parties humaines étaient plus d'un ange valétudinaire que d'un homme, car il avait des mains fines et polies comme celles d'un prestidigitateur, de grands yeux crépusculaires, et sur les omoplates, des moignons cicatrisés, calleux, d'ailes puissantes qui avaient dû être taillées à coups de serpe de paysan. Ils le pendirent par les chevilles à un amandier de la place, afin qu'il ne restât ignoré de personne, et quand il se mit à pourrir, on l'incinéra sur un bûcher, faute d'avoir pu déterminer si sa nature bâtarde était d'un animal qu'on jette à la rivière ou d'un chrétien auquel on donne sépulture. Jamais on ne put établir si ce fut vraiment à cause de lui qu'étaient morts les oiseaux, mais les jeunes mariés n'engendrèrent pas les avortons qui avaient été annoncés, et la chaleur ne diminua pas d'intensité pour autant. Rebecca mourut à la fin de cette même année. Achenida, qui l'avait servi toute sa vie, demanda de l'aide aux autorités pour forcer la porte de la chambre où sa maîtresse était enfermée depuis 3 jours. et on la trouva dans son lit de solitude, recroquevillée comme une crevette, la tête pelée par la teigne et le pouce enfoncé dans la bouche. Aureliano le second s'occupa de l'enterrement et voulut restaurer la maison pour la revendre. Mais la ruine faisait tellement corps avec elle que les murs s'écaillaient à peine repeints, qu'on ne trouva pas de mortier assez épais pour empêcher la mauvaise herbe de concasser les sols, ni le lierre de pourrir les poutres et les étais. Ainsi en allait-il de toutes choses depuis le déluge. La nonchalance des gens contrastait avec la voracité de l'oubli qui peu à peu rongeait impitoyablement les souvenirs, à tel point que, vers cette époque, à l'occasion d'un nouvel anniversaire du traité de Néerlandia, quand arrivèrent à Macondo des émissaires du président de la République, chargés de remettre enfin la décoration maintes fois refusée par le colonel Aureliano Buendía, ils durent perdre tout un après-midi à chercher quelqu'un qui pût leur indiquer où trouver un de ses descendants. Aureliano le second fut tenté de l'accepter, croyant que c'était une médaille en or massif, mais Petra Cotes, alors que les émissaires préparaient déjà les avis et les discours pour la cérémonie, parvint à le persuader que c'était une indignité. Vers cette époque également revinrent les Gitans, derniers héritiers du savoir de Melquiades, et ils trouvèrent le village si éteint, ses habitants si éloignés du reste du monde, qu'ils s'introduisirent de nouveau dans les maisons en traînant des barres de fer aimantées, comme si ça avait été en vérité la dernière découverte des savants de Babylone, et se remirent à concentrer les rayons solaires à l'aide de leur loupe géante, et il ne manqua pas de gens pour rester bouche bée en voyant choir les poêles et rouler les chaudrons, et pour payer 50 centavos le droit de regarder, avec un étonnement panique, une gitane ôter et remettre son dentier. Un train jaune, détraqué, qui n'emportait ni ne ramenait personne, et s'arrêtait à peine dans la gare déserte, voilà tout ce qui restait du train bondé, auquel Mr. Brown accrochait son wagon à toit de verre et à fauteuils épiscopaux, ainsi que les convois fruitiers de 120 wagons qui passaient sans interruption pendant tout un après-midi. Les envoyés des tribunaux, qui étaient venus enquêter à la nouvelle de l'étrange hécatombe d'oiseaux et du sacrifice du juif errant, trouvèrent le père Antonio Isabelle en train de jouer à Colin Maillard avec les enfants, crurent que ces informations étaient le résultat de quelque hallucination sénile, et l'emmenèrent dans un asile. Ils envoyèrent peu après le père Augusto Angel, nouveau croisé de la dernière cuvée, intransigeant, sûr de lui, téméraire, qui n'hésitait pas à sonner lui-même les cloches plusieurs fois par jour pour empêcher les esprits de tomber en léthargie et faisait du porte-à-porte pour réveiller les paresseux afin qu'ils se rendissent à la messe. Mais il ne fallut pas plus d'un an pour qu'il se trouvât vaincu à son tour par ce laisser-aller qu'on respirait avec l'air, par cette poussière brûlante qui vieillissait et enlisait toute chose, et par cette envie de dormir que lui donnaient les boulettes du déjeuner dans l'insupportable chaleur de la sieste.